La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous venons de recevoir un coffret de réédition de concerts auxquels nous avons en partie assisté du temps de nos jeunes années. Il s'agit
des concerts de Count Basie à Paris.
Avec son grand orchestre. Et là, nous allons nous retrouver en 1957, en 1960 et en 1962.
Effectivement, Count Basie est venu assez souvent faire des tournées. Mais là, il s'agissait bien sûr d'être à Paris. Et c'était très important pour son orchestre de venir. Parce qu'il y avait des raisons économiques tout à fait importantes pour qu'il commence à faire des tournées en Europe.
Économique, sociale et culturelle. Tu remarqueras qu'avant la guerre, on a très peu vu d'orchestres constitués venir en Europe. Et après-guerre, les choses se sont considérablement dégradées pour le jazz, pour pas mal de raisons. Culturelle, sociale, économique.
Une des raisons, c'était qu'on avait beaucoup travaillé en Amérique pour l'armement. Ça avait donné du travail à énormément de gens.
Quand tous les gens qui étaient sous les drapeaux sont revenus en Amérique, non seulement ils étaient de nouveau sur le marché du travail, mais ce marché-là avait considérablement régressé, puisqu'il n'y avait plus d'armes à fabriquer. Parallèlement à ça, est apparue une nouvelle musique qui a malheureusement été baptisée par les médias et très soutenue du nom de jazz moderne. Et c'est une musique sur laquelle on ne dansait pas, on ne pouvait pas danser.
Les uns l'ont appelé jazz moderne parce que c'était commode, que l'étiquette jazz avait beaucoup de crédit. Mais d'autres personnes, pour bien marquer la différence, l'ont appelé bebop, créé par une toute petite proportion de musiciens de jazz, extrêmement intellectuels, extrêmement savants. Et ça a permis d'ailleurs à l'époque de faire rentrer beaucoup de jeunes musiciens blancs qui ne connaissaient pas le jazz dans une musique dont on leur disait c'est du jazz, mais qu'il n'était pas vraiment dans la réalité. C'était, pour certaines personnes, le progrès.
Alors évidemment, vous mettez à la place d'un patron de boîte qui engage des musiciens de jazz, et puis on ne peut pas danser. Alors évidemment, les danseurs vont ailleurs.
Et oui, parce que c'est une musique qui s'écoute, elle ne se danse pas vraiment.
On commence à prendre l'habitude d'écouter le jazz sans danser. Et par-dessus le marché, le gouvernement choisit ce moment-là pour assommer de taxes tous les cabarets où on dansait. Donc, que font les patrons? Eh bien, ils suppriment les pistes de danse. On écoutera désormais la musique assis. Et puis, quand il n'y a pas assez de monde, eh bien, on invente un autre genre de spectacle.
Et c'est de là qu'est venue la mode du striptease.
Voilà, vous ne saviez pas ça, que le striptease est né sur les décombres du jazz qui se dansait? Eh bien, voilà, c'est pourtant vrai. Alors, tu ajoutes à ça la grève déclenchée par le syndicat des musiciens contre les compagnies de disques. Interdiction d'enregistrer pendant un an.
Et il faut savoir qu'en Amérique, quand les syndicats ont dit quelque chose, tout le monde suit à la lettre ce que le syndicat a dit. Ce qui fait que personne n'a enregistré de musique orchestrale. Et bien sûr, la nature ayant horreur du vide, il a bien fallu quand même faire des disques pour les gens. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a mis des chanteurs.
Eh oui, parce que les chanteurs n'étaient pas concernés. C'est avec les instrumentistes qui étaient interdits d'enregistrement. Toute cette cuisine a abouti à un fait extrêmement simple. Le jazz s'est complètement cassé la figure. Et même Duke Ellington a dû dissoudre son orchestre pendant quelques temps.
Alors que c'était des institutions. Et Count Basie, ben, il a fait comme tout le monde. Il a abandonné son orchestre pendant un certain temps.
Oui, c'était quand même étonnant de voir Count Basie, qui n'avait jamais vécu qu'en grand orchestre, se retrouver à tête d'une formation de 5-6 musiciens, quoi, pendant pas mal de temps même. Et puis, quand même, il y a des hommes d'affaires à viser.
Ils vont chercher d'autres marchés. Et les autres marchés, c'est l'Europe.
Et voilà pourquoi, quand Count Basie a recommencé à avoir un grand orchestre, puisqu'il y avait de nouveau un marché, il était très attendu en Europe en général, et à Paris en particulier, où il est arrivé d'ailleurs dès 1954. Tu me diras que ça fait déjà loin de la guerre, mais il a fallu tout ce temps-là pour reconstruire quelque chose. Et là, nous voilà en 57, et là, l'orchestre s'est vraiment structuré, il va rester assez longtemps avec un personnel que nous allons découvrir, et il va, par rapport au grand orchestre d'avant-guerre, il va avoir un son tout à fait différent, et le résultat va naturellement être très apprécié. D'ailleurs, je pense que vous allez vous aussi l'apprécier. Voilà, je crois qu'on a assez parlé là-dessus, hein. Et nous allons vous donner le programme. Nous voilà donc en 57 à l'Olympia.
Vous entendrez d'abord Corner Pocket,
Lovely Baby,
Bleep Blop Blues.
Et après Bleep Blop Blues, vous aurez un morceau dédié à Count Basie lui-même qui s'appelle The Kid from Red Bank. Et naturellement, qui c'est l'enfant de Red Bank? C'est Basie qui y est né. Et le morceau lui est dédié et il est très en valeur au piano dans ce morceau. Et puis nous voilà maintenant en 1960.
Au Palais de Chaillot. Et là, ben, vous entendrez Shiny Stockings.
In a Mellotone.
Blues in Horse Flat.
Ce qui veut dire, dans le langage des jazzmen, blues en cheval bémol. Je suppose que quelqu'un avait perdu aux courses. Et le dernier morceau que nous avons pris dans ce concert,
Seg in C.
Et puis pour finir, nous voilà de nouveau à l'Olympia en 62. Et cette fois-ci, nous y étions. Et quand on est rentré au lycée le lundi matin, quelques copains avec nous qui y étaient également, on a dit à tout le monde, Basie, champion du monde. Voici Vine Street Rumble, tiré de la fameuse Kansas City Suite arrangée par Benny Carter lui-même.
Et puis, vous entendrez Jumping at the Woodside.
Vieux répertoire, parce que Basie avait gardé quelques morceaux comme ça. Et puis après, un morceau très connu.
Ah, Lil Darling.
Dont Henry Salvador a fait un délicieux disque qui s'appelle Count Basie, ou juste un petit disque de Count Basie. Et pour finir, l'indicatif de fin de concert de Basie, qui était déjà l'indicatif du premier orchestre des années 30.
Eh bien, il s'agit du célèbre One O'Clock Jump.
Et tu sais pourquoi ça s'est appelé comme ça, ce morceau?
Parce que ça se finissait à 1h du matin, non?
Eh bien, tu es sur la bonne voie. En fait, à l'époque, Basie et ses musiciens travaillaient beaucoup uniquement sur des arrangements de tête. Hein. Beaucoup de choses n'étaient pas écrites. Et celui-là, je crois qu'il a été mis au point sur le tas. Enfin bref, une fois que ça a été enregistré, naturellement, technicien, on dit comment ça s'appelle. Et Basie a gardé l'horloge du studio et il était 1h du matin. Et c'est pour ça que ça s'appelle
One O'Clock Jam. Thank you.
Back at that house. Back west. Don't know it. Thank you. That was the tune of our guitarist, Freddie Green. A little tune he calls Corner Pocket. Now we'd like to do another original thing. We call Loving Me Baby. All right, now we'd like to do another one of Neil Hefti's original things. We call this one The Kid from Red Bank. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
this, ladies and gentlemen, just about winds up our little session. For all the gang and myself, we sincerely hope you've enjoyed us as much as we've enjoyed working for you, because it's been swell. And you've been wonderful again. So until we meet again, thanks a million. And
c'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.